Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Olivier Tosserie.
Des hommes armés sont entrés lundi 2 décembre dans le village chrétien de Mahaloula. 5 religieuses orthodoxes enlevées en Syrie. Nous entendrons l'inquiétude de Monseigneur Zenari, le nonce apostolique sur place. La guerre en Syrie ou l'instabilité irakienne, les chrétiens sont pris en étau entre des différents opposant en réalité les musulmans sunnites et des musulmans chiites. Nous en parlerons dans quelques instants. Début ce mardi matin de la deuxième réunion du conseil des 8 cardinaux, institué par le pape François au début de son pontificat pour le conseiller dans la réforme de la curie romaine. Et puis la pénalisation des clients de la prostitution en France. La mesure phare et controversée de la proposition de loi sur la prostitution a été adoptée vendredi 29 novembre par les députés. Après des semaines de polémiques, on fait le point à la fin du magazine. Bienvenue dans ce magazine. Des hommes armés sont entrés lundi 2 décembre dans le village chrétien de Mahaloula, situé à 55 km au nord de Damas, où la grande majorité de la population a fui vers la capitale syrienne ou le Liban. Ils ont enlevé 12 sœurs qui se trouvaient dans le monastère orthodoxe de Sainte-Thècle. C'est ce que nous confirmait lundi soir Monseigneur Mario Zenari, nonce apostolique en Syrie, qui a été informé de cet enlèvement par le patriarcat grec orthodoxe. Il confie à notre micro son inquiétude.
D'après ce que j'ai pu connaître, de la part des patriarcats gréco-orthodoxes ici à Damas, cet après-midi, des gens armés ont fait irruption au monastère de Sainte-Thècle, au monastère gréco-orthodoxe, où se trouvaient 12 religieuses, et les armes à la main, ils les ont obligés à quitter le monastère et à les suivre, il paraît, vers Yabrud, qui est une località à peu près 30 km au nord de Mahaloula. Et là, il faut noter que c'est la région de Calamon où maintenant il y a un combat acharné entre l'armée et les rebelles. Ils étaient restés, ils avaient décidé de rester, de témoigner avec leur présence, la présence chrétienne dans cette ancienne village où on parle, les gens parlent la langue parlée par Jésus-Christ.
Sait-on pour quelles raisons ces religieuses ont été enlevées?
Jusqu'à présent, on ne sait pas. On espère que les sœurs, les religieuses vont être traitées bien et qu'ils soient dans une localité sûre, mais on ne sait pas. Ça, c'est notre souhait et notre prière.
Quelle est actuellement la situation à Mahaloula?
Bon, Mahaloula, c'est toujours le combat entre l'armée et les rebelles. L'armée cherche d'avancer, mais le combat est très dur, comme dans d'autres localités, au nord de Damas et au sud de Damas. Peut-être en raison, je ne sais pas, mais en raison de la conférence de Genève 2 qui va se tenir le 22 janvier, peut-être chacun des deux parties cherche d'avoir, de gagner quelque chose sur le terrain, je ne sais pas.
Vous êtes en tout cas très inquiet pour ces religieuses et pour le sort de la population syrienne et notamment des chrétiens.
Oui, en effet, ça fait 3 jours, le ministre des Affaires étrangères a convoqué tous les diplomates, les chefs de mission diplomatique et les chefs des agences de l'ONU pour nous faire connaître cette situation très pénible des chrétiens qui sont ciblés dans différentes localités du pays. C'est quelque chose que surtout en ces derniers mois, ces dernières semaines, vraiment la chose est devenue préoccupante. Quand des gens armés entrent dans des villages où il y a des chrétiens, et les chrétiens sont obligés à quitter vite l'endroit où les églises sont profanées, les symboles religieux sont détruits. C'est quelque chose qui inquiète maintenant la communauté chrétienne. C'est très inquiétant ce qui s'est passé dernièrement et qui se passe actuellement.
Restons au Moyen-Orient où les chrétiens minoritaires dans des pays de confession musulmane parlent souvent d'un dialogue de vie serein au quotidien avec les musulmans. On connaît néanmoins leurs difficultés, les discriminations, le sentiment d'être des citoyens de seconde zone et l'exode face aux violences. La guerre en Syrie ou l'instabilité irakienne, les chrétiens sont pris en étau entre des différents opposants en réalité les musulmans sunnites aux musulmans chiites. Monseigneur Louis-Raphaël Ier Sacco, patriarche de Babylone des Chaldéens, basé à Bagdad, nous explique ses difficultés.
Il y a là un peu la persécution. Donc en Irak, 62 églises ont été attaquées, plus de 1000 personnes ont été tuées. Aujourd'hui, ça se répète en Syrie par les groupes, disons, fondamentalistes. Un peu en Égypte aussi, il y a une peur pour les chrétiens. Et au Liban, le problème politique. En Iran, déjà, les chrétiens sont devenus une minorité vraiment symbolique. Nous, les Chaldéens, nous avions deux diocèses avec plus de 20 000 Chaldéens. Aujourd'hui, 4 000 seulement. Donc, il y a un mouvement préoccupant. Cet exode des chrétiens nous préoccupe beaucoup.
Comment pensez-vous faire face à cette situation? Est-ce qu'il y a de la résignation ou au contraire de l'espoir? Est-ce que vous êtes tous sur la même longueur d'onde pour affronter cette crise?
C'est-à-dire, dans cette plénière, nous avons insisté sur deux points. Le premier point, c'était comment garder nos chrétiens sur place pour témoigner leur foi et aussi jouer leur rôle historique par rapport aux autres citoyens et aussi à leur patrie. Et comment développer un dialogue? Peut-être il faut faire un dialogue avec les autorités musulmanes pour leur dire, donc nous, les chrétiens, nous n'avons rien avec la politique occidentale et nous étions ici toujours, c'est notre pays. Pourquoi cette pression sur les chrétiens? Quoique c'est une pression par un groupe, mais donc les autorités peuvent créer, disons, une atmosphère souple. Les gouvernements de ces pays donc, doivent respecter les droits de l'homme et la communauté internationale doit jouer un rôle. Le deuxième point, ce sont nos chrétiens aux diasporas, comment assurer une pastorale appropriée et comment les suivre.
On sait que la situation des chrétiens en Syrie est dramatique. Le parallèle avec ce que vous vivez en Irak est pertinent selon vous?
Je crois que ça se répète en Syrie, ce que nous avons vécu. Parce qu'on entend chaque jour des chrétiens ont été tués ou enlevés ou des églises attaquées, etc. Donc on ne comprend pas tout cela. Qui est derrière tout ce scénario? Donc qui pousse les gens à la guerre? Et aussi à une guerre sectaire, disons. Qui est là? Qui donne de l'argent? Qui donne des armes? Et pourquoi? Ils ont changé de régime ici et là, mais où est la démocratie, la liberté? En Libye, par exemple, ou ailleurs. Nous, après 10 ans, nous avons toujours des difficultés, et la situation est incertaine. Et où va le pays? C'est vrai, nous sommes très contents de la démocratie, de la liberté, mais il faut chercher d'autres moyens que la guerre.
Ce mardi matin, le secrétaire du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, le père Miguel Angel Ayuso Guixo, accompagné du nonce apostolique en Égypte, Mgr Jean-Paul Gobel, a été reçu en visite à l'université Al-Azhar au Caire. Les deux hommes ont été reçus par le bras droit du grand imam Abbas Shouman, par le conseiller pour le dialogue, Mahmoud Azab, et par une représentation d'une dizaine de hautes personnalités de l'université. Le père Ayuso était porteur d'un message écrit par le président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, le cardinal Jean-Louis Torrent. La rencontre de 45 minutes fut cordiale et fructueuse. Il en ressort une disponibilité à reprendre le dialogue et la collaboration dans un souhait que les relations se poursuivent dans le futur. Début ce mardi matin de la deuxième réunion du Conseil des huit cardinaux instituée par le pape François au début de son pontificat pour le conseiller dans la réforme de la curie romaine. Cette rencontre, qui se déroule dans une salle de réunion de la Maison Sainte-Marthe, durera 3 jours à raison de 2 sessions quotidiennes, l'une le matin, l'autre l'après-midi. Lors d'une conférence de presse, le directeur de la salle de presse du Saint-Siège, le père Federico Lombardi, a confirmé que les cardinaux avaient entamé l'examen des dicastères, cœur de la grande réforme voulue par le pape. Les précisions de Xavier Sartre.
Pas de doute possible, la future nouvelle constitution qui remplacera Bonus Pastor est en marche. Le père Lombardi a bien confirmé ce qui avait été dit en octobre. Les cardinaux ne vont pas procéder à une simple révision des textes. Leur travail va en profondeur. Ils profitent ainsi de leurs différentes compétences dans tous les champs étudiés ainsi que des avis énoncés par les conférences épiscopales nationales ou autres organismes épiscopaux pour dessiner une refonte complète des institutions. À leur côté, le pape François est sans doute lors d'une session, afin de faire connaissance et de prendre un premier contact, le nouveau secrétaire d'État, Mgr Parolin. Les 8 cardinaux, après avoir abordé la réforme du synode en octobre dernier, ont cette fois commencé à passer en revue toutes les congrégations et conseils pontificaux. Premier sur leur liste, la congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements. Pas question en revanche d'entendre les représentants des commissions compétentes en matière financière. Le dossier des finances sera théoriquement étudié les 17 et 18 février prochains lors de la 3e réunion du Conseil des cardinaux qui précédera le consistoire convoqué fin octobre par le pape.
Une église sans joie est impensable. Dans la joie, elle annonce le nom du Christ avec le sourire. L'église doit toujours être joyeuse comme Jésus. C'est ce qu'a affirmé le pape François lors de la messe célébrée ce mardi matin en la chapelle de la Maison Sainte-Marthe. Le pape a souligné que l'église est appelée à transmettre la joie du Seigneur à ses enfants. Une joie qui donne la vraie paix. Paix et joie, le pape François a prononcé son homélie en s'arrêtant sur ce binôme. Dans la première lecture tirée du livre d'Isaïe, il a fait remarquer que nous apercevons le désir de paix que nous avons tous. Une paix, dit Isaac, que nous apportera le Messie. Dans l'Évangile, par contre, nous pouvons entrevoir un peu l'âme de Jésus, le cœur de Jésus, un cœur joyeux. Le cardinal Kurt Korps, président du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens, est en Roumanie du 3 au 7 décembre. Le cardinal Korps visitera les villes de Bucarest, Blaj, Alba Iulia et Cluj-Napoca, rencontrera le président Traian Bașescu et le secrétaire d'État pour les cultes, ainsi que le patriarche Daniel de l'Église orthodoxe roumaine et les archevêques orthodoxes d'Alba Iulia et Cluj. Il rencontrera par ailleurs Mgr Ioan Robu, archevêque de Bucarest, et le président de la conférence épiscopale roumaine et le cardinal Lucian Muresan, archevêque majeur de l'Église roumaine gréco-catholique. Durant la visite, le cardinal Korps rencontrera aussi les professeurs de la faculté de théologie catholique de l'Université de Bucarest et tiendra une conférence sur la situation actuelle de l'œcuménisme. Restons en Europe de l'Est, où l'archevêque majeur de Kiev, Mgr Sviatoslav Jvekouk, a condamné la violente répression des forces de l'ordre ukrainiennes lors des manifestations dans la capitale contre le refus du président Viktor Yanukovych de signer l'accord d'association avec l'Union européenne. « Nous ne devons pas répondre à la violence par la violence », a déclaré le chef de l'église grecque catholique ukrainienne, cité par l'agence RISU, en demandant de stopper cette recrudescence de tensions qui risque d'avoir des conséquences encore plus dramatiques. Les responsables des églises orthodoxes lui ont fait écho dans des messages similaire. Le patriarche Filaret, chef de l'église orthodoxe ukrainienne, a exhorté la police, mais également les manifestants, à éviter de nouvelles violences. L'église orthodoxe ukrainienne, liée au patriarcat de Moscou, a publié une déclaration du métropolite Volodymyr Zabodan qui exhorte à ne pas diviser la société ukrainienne et à prier pour la paix en évitant le recours à la violence pour résoudre les divergences. La pénalisation des clients de la prostitution en France, la mesure phare et controversée de la proposition de loi sur la prostitution, a été adoptée vendredi 29 novembre par les députés après des semaines de polémiques, de divisions patentes au sein de la classe politique et de l'opinion publique. Le vote sur l'ensemble du texte est prévu mercredi 4 décembre. Les promoteurs de cette loi entendent changer le regard sur la prostitution et répondre aux souffrances exprimées par les personnes prostituées. Outre l'abrogation du délit de racolage passif, le texte de loi prévoit également des mesures d'accompagnement social pour celles qui veulent quitter la prostitution. Nombreux sont ceux, professionnels ou volontaires, qui œuvrent déjà en ce sens, offrant sur le terrain un accompagnement quotidien aux personnes prostituées et les aidant à se réinsérer. Ces personnes espèrent, par leur action discrète, faire évoluer les mentalités et les comportements. Parmi elles, sœur Viviane Wagner de la congrégation des Sœurs de la Providence de Saint-André-du-Peltre, près de Metz. Elle est engagée depuis 11 ans au mouvement du Nid, dont elle est déléguée pour le département de Moselle. Elle est interrogée par Manuela Affigi.
Ces personnes personnes nous accueillent en quelque sorte chez elles, sur le trottoir, parce que c'est ce que nous faisons. Nous sortons toujours à deux, un homme et une femme, quand c'est possible, puisque nous sommes que des bénévoles. Et par conséquent, ben, on aborde ces personnes en leur disant que nous sommes des personnes du mouvement du Nid, qui est un mouvement qui s'occupe donc ou qui aide des personnes prostituées. Donc le mot est lâché. Et là, elles se déclinent elles-mêmes en disant « Écoutez, ça ne nous intéresse pas, nous travaillons » ou tout simplement... Elles sont un peu surprises et puis l'échange démarre comme ça. On parle de la pluie, du froid, d'un match qu'elles ont. Enfin voilà, c'est toujours très simple. Et puis petit à petit, ben voilà, le contact établi, on peut aller un peu plus loin dans l'échange. Et l'important, c'est une régularité. Nous sortons depuis 20 ans ici à Metz sur les trottoirs. Ça veut dire qu'il faut une régularité, une permanence dans ces contacts.
Passer le premier contact, il y a un véritable climat de confiance à instaurer. Ces personnes osent-elles se confier à vous ?
Pas sur le trottoir, parce que le lieu n'est peut-être pas toujours adapté, mais quand même, souvent, quand elles viennent nous trouver à la permanence, là, il y a quelque chose qui se livre réellement. Bon, alors, les demandes sont très variables. C'est parfois une demande matérielle, tout simplement, une demande de soins, une demande d'écoute, justement, parce que c'est quand même ça. Elles vivent une profonde solitude, ces personnes prostituées. On ne l'imagine même pas parce que les amis, la famille, il y a une espèce de séparation, de mise à l'écart de la part des familles et des amis parce que c'est pas très bien vu quand même d'avoir dans sa famille, dans ses proches, une personne prostituée. Voilà, il y a une solitude épouvantable qui s'installe au fil des ans et que nous essayons finalement aussi de canaliser par une présence. Alors, nous faisons aussi ce que nous pouvons, mais... Voilà, ça fait partie, je dirais aussi, d'une de nos actions.
Vous parlez de leur solitude, mais il y a aussi un autre aspect dont on parle peut-être moins, c'est celui des séquelles psychologiques.
Non, on en parle très peu et vous avez raison de souligner finalement. Ce qui me plaît dans cet entretien, c'est que vous parlez de la personne prostituée. Ouais, on pénalise le client, tout le monde s'évertue à parler de cela, mais qu'est-ce qui est en jeu là, dans la personne ? C'est-à-dire qu'elles sont tellement démolies après des années de prostitution, qu'elles sont, on va dire, presque dans un clivage. Elles ont annihilé, on va dire, leurs besoins, leurs désirs pour pouvoir supporter, je dirais, la prostitution. Une espèce de dualisme. Et donc, revivre après la prostitution, c'est tout un dilemme, tout un enjeu que nous accompagnons aussi. Là, j'ai encore entendu hier soir une femme d'au-delà de 70 ans, qui vit difficilement la sortie de la prostitution. Parce que, seule, de temps en temps, il faut appeler ces personnes, les sortir, leur rendre visite, leur donner de nouveau un statut qui n'est plus celui de la prostitution.
Finalement, quel est votre but en intervenant auprès de ces personnes ? Quel est le but de votre association ?
Écoutez, l'objectif demandé par ce collectif d'associations dont nous faisons partie, l'objectif, dans 20 ans, c'est que des jeunes, vos enfants, vos petits-enfants, mes neveux, mes petites-nièces, ne peuvent même plus concevoir qu'on achète un acte sexuel. On ne le concevra plus si effectivement on avance sur ce terrain-là d'une loi qui interdit ou qui en tous les cas pénalise ou sanctionne les clients. Dans 20 ans, nos jeunes ne le pourront plus imaginer. Ce qui est le cas actuellement en Suède, les jeunes ne peuvent plus imaginer qu'on puisse acheter un acte sexuel de la part d'un homme, d'une femme, encore moins d'un enfant. Enfin voilà, c'est ça l'objectif de cette loi. Ça n'a rien d'autre, ce n'est rien d'autre.
Le projet de loi donc comprend la pénalisation des clients, des prostituées. C'est une mesure qui a été décriée par beaucoup, puisque selon eux, cette mesure contribuerait à reléguer la personne prostituée dans la clandestinité et donc à lui rendre la vie encore plus difficile.
Elles le sont déjà dans la clandestinité, puisque vous savez bien quand même en France, la prostitution, il y a un statut bâtard. Elles le sont déjà, elles ne le seront pas davantage, au contraire. Parce que cette loi leur donnera des droits aussi. Si un client est violent à leur égard, c'est quand même les clients les plus violents à leur égard. Si c'est le cas, elles pourront dénoncer puisque la loi les désautorisera de le faire. C'est un droit qui leur permettra de sortir de ce statut elles-mêmes de délinquantes, puisque pour l'instant elles sont considérées comme ça en France, tant que le délit de racolage ne sera pas puni ou aboli. Nous voulons qu'elles soient considérées comme des personnes et des personnes ayant subi des violences, qu'elles sont victimes aussi d'un système, et par conséquent, cette loi les aidera aussi à sortir de ce statut de délinquante.
Et c'est ainsi que prend fin ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez plus d'informations sur notre site internet www.radiovaticana.va ainsi que sur notre page Facebook Radio Vatican en français.